J'aimerais t'offrir des mots. J'aimerais t'offrir des mots qui soignent, qui encouragent, qui parrainent, des mots qui touchent, qui éveillent, qui font vibrer ton cœur, et des mots pour te dire ce qu'on ne te dit pas souvent, pas assez. Des mots qui surprennent, des mots qui déclenchent des larmes de joie, des mots pour ton âme, des mots qui percent ton armure. Des mots soufflés de l'invisible, des mots bénis, chargés de lumière, et des mots d'espoir, des mots vivants, des mots de paix, et des murmures. Des mots qui osent parler de la splendeur de ton être, des mots qui chantent la mélodie qui porte ton nom, des mots si doux qu'ils caressent d'un souffle chaud ton univers, et des mots qui goûtent le miel, sucré comme du bonbon. Des mots qui dansent pour toi quand ton ciel gris te suit partout. Des mots qui redonnent confiance lorsque la mer est en remous. Des mots qui gonflent de vie les grains d'espoir nichés en toi. Et des mots qui guident fièrement tes yeux vers les plus hautes étoiles. J'aimerais t'offrir des mots déposés sur ta vie comme un énorme bouquet de roses. Des mots précieux, choisis pour toi, en vers et en prose. Et des mots d'humain, simplement, de mon âme à la tienne. J'aimerais t'offrir des mots d'amour, pour te voir sourire à l'infini, car une âme heureuse peut illuminer le monde entier. Louise Côté.
Des livres plein les oreilles. Un livre, ça peut s'écouter. Et quand ça s'écoute de cette façon-là, dans la façon dont Daniel Panton a de livrer ce livre-là, eh bien, ça s'écoute d'autant plus. Et vous savez tout l'amour que je porte au livre audio, et c'est donc la raison pour laquelle j'ai voulu à tout prix inviter Daniel Panton en tant que narratrice, mais aussi l'autrice. Des mots que vous avez entendus, ce poème qu'on vient d'entendre, lu magnifiquement par Daniel Panton. L'autrice s'appelle Louise Côté, et je trouve que quand on parle d'écouter, moi je dirais de l'art de l'écoute, eh bien ici il porte un nom au Québec, et c'est celui de Louise Côté, à qui l'on doit le poème et le livre « L'alchimie des mots ». Un titre intriguant, un contenu tellement éclairant sur l'art d'entendre, mais d'écouter l'autre dans nos communications. Je vous jure, c'est très instructif. Alors, avec elle en studio, l'ami Daniel Panton. Bonjour Daniel.
Bonjour Clotilde.
Et puis Louise Côté.
Bonjour.
Autrice, qui est toute émue. Hein? Et pourtant, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez lire ce poème, Daniel.
Ça fait quelques fois, mais ça me touche tout autant.
Mais c'est parce que les mots sont forts aussi. Hein? Alors, je vous reçois toutes les deux pour ce livre, L'alchimie des mots. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre si ce n'est que l'amoureuse des mots que je suis sur le plan étymologique, sur le plan de la prosodie, tout ça. Voici un livre qui m'interpelle et qui m'a interpellée beaucoup. On commence souvent nos phrases en disant « Écoutez, et c'est fou, parce qu'on n'écoute pas. Alors, vous l'avez remarqué vous-même, même moi parfois. Bon, écoutez, ou alors regardez. Regardez quoi? Écoutez quoi? Donc, c'est... Bon, moi, je me dis toujours que c'est une façon de passer la nervosité et qu'au lieu de prendre une bonne respiration, on dit écoutez, puis comme ça permet d'avoir l'air intelligent. Mais bon, le langage est la demeure de l'âme, a dit Jacques Ferron. Sur quoi... Qu'est-ce qui a fait Louise Côté qu'à un moment donné, quel est votre parcours qui fait qu'à un moment donné, vous avez écrit l'alchimie des mots, et derrière l'alchimie des mots, vous allez nous en parler, ça revêt beaucoup de choses. Oui. C'est un concept, c'est pas seulement... Qu'est-ce que l'alchimie des mots, Louise?
Ben, en fait, je suis une passionnée de l'âme humaine. Passionnée de l'âme humaine. Et j'ai étudié Jung, qui parle beaucoup de l'inconscient. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient, en fait? Hein? Ouais. Et entre autres, il y a plein de choses, mais entre autres, il y a les mots. Les mots qu'on utilise ne sont pas toujours nécessairement réfléchis d'avance. Hein? Quand je vous pose une question, vous répondez avec les mots qui sont là.
Oui.
Mais l'inconscient, lui, veut toujours s'exprimer, veut toujours dire sa vérité. Alors, comment il fait? Ben, il utilise les mots. Les mots qui se faufilent, les mots qui ont des secrets. Parce que chaque personne a sa définition, a son propre dictionnaire, parce que chaque mot est associé avec une expérience. Si je vous dis tarte aux pommes, mm-hmm. et votre mère faisait de merveilleuses tartes aux pommes, puis mm-hmm. vous l'avez aimée, mm-hmm. le tarte aux pommes va être un beau souvenir. Mm-hmm. Alors, si vous l'utilisez, c'est chargé des émotions positives. Si ça a été connecté avec une émotion négative, ben le même tarte aux pommes n'aura pas la même signification si vous l'utilisez dans une phrase. Alors moi, j'ai trouvé ça fascinant, ce concept-là, et j'ai voulu le pratiquer d'abord avec mes étudiants pour voir est-ce que je fabule. Et je me suis aperçue que c'était thérapeutique, en fait.
Parce que vous êtes aussi enseignante.
Oui, je suis enseignante. En fait, je suis enseignante certifiée en programmation neurolinguistique.
Voilà. Oui.
Mais j'ai une école qui s'appelle l'Institut de coaching holistique.
OK.
Alors, à travers mes étudiants, j'ai tout essayé.
C'est-à-dire que vous les avez fait parler et vous avez essayé avec les autres de déceler peut-être ce que l'inconscient, son inconscient, était en train de vous partager?
Ben oui, mais je vais vous raconter la première histoire.
Allez-y.
Le déclencheur, parce que ça, c'est toujours
d'accord,
intéressant.
Bon. D'accord.
Alors, un jour, j'avais quelqu'un qui arrive à mon bureau, qui s'assoit sa fesse sur ma chaise de coaching et qui me dit, comme ça, je ne sais pas si je vais laisser mon mari parce que entre lui et moi, c'est terminé. Mais moi, le mot terminé est arrivé à mes oreilles divisé en deux mots. Alors, une terre minée. Et tout bonnement, je lui ai dit comme ça, est-ce qu'à quelque part, votre demeure ne serait pas une terre minée? Hein? Et là, elle fait un espèce de saut comme ça, elle recule sur la chaise, puis elle dit, écoute, Louise, mon mari a été arrêté pour cyberpédophilie. Il faisait ça dans la maison. Et je ne savais pas, ça faisait 20 ans. Donc, la réponse à ma question, c'est oui, je dois tout de suite aller parler à un agent d'immeuble pour vendre ma maison. Et ça, ça a été l'événement déclencheur pour moi de me dire, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Quelle est ma stratégie de Louise pour avoir compris que sa réponse était dans le mot « terminé
». C'est formidable comme révélation.
Oui, absolument.
Parce que c'est une révélation. Daniel Panton, oui. on se prépare comment à lire un livre comme celui-ci? Vous qui en êtes la fabuleuse narratrice, fabuleuse. Parce que maintenant, depuis
oui.
tout ce que je dis, je fais « qu'est-ce que je viens de dire?
» Oui, c'est ça.
Vous aussi, Daniel?
Ben, oui, on s'écoute parler, on s'entend parler. Oui. C'est assez incroyable. Hein? Mais moi aussi, j'ai été comme vous, Clotilde, fascinée par le livre de Louise. Parce que comme vous, je suis aussi une amoureuse des mots. Je suis fascinée par l'étymologie, par la linguistique. Et puis, je vais juste, avant de répondre plus précisément à votre question...
C'est bien beau.
Oui, tout à l'heure, parce que Louise fait de la programmation neuro-linguistique aussi,
ce qu'on
PNL.
A fait la PNL, oui.
Voilà. Et tout à l'heure, vous disiez, souvent, on commence nos phrases par « écouter » ou « vous voyez » ou « regardez ». Mais ça fait partie de la PNL, dans le sens qu'on est plus ou moins visuel, kinesthésique ou encore auditif. Alors, quelqu'un qui est très visuel va souvent commencer ses phrases par « regardez ». Moi, hier, je suis allée... Quelqu'un qui est auditif va dire « écoutez ».
Ah oui!
Exactement.
Mm-hmm. Ah oui,
ou bien non, « comprends-tu ». Des gens qui vont terminer leur phrase par « comprends-tu », c'est souvent kinesthésique aussi. Le mot « prendre »,« comprendre ». Alors, ça, c'est très intéressant. Et je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure parce que ça m'a frappé.
Mais absolument, absolument. Oui. Alors, Daniel, oui, on se prépare comment? Parce que... vous l'avez, parce que je vous connais, vous êtes quelqu'un, vous n'arrivez pas comme ça en studio, là, me le s'est préparé ça, madame,
oui.
C'est formidable. Mais alors, donc, vous l'avez lu en entier?
Oui, je l'ai lu en entier d'abord, et puis déjà en faisant plein de liens et tout, mais pour moi, c'est la première chose, la plus importante, c'est que je me mets toujours dans la peau de la personne qui écoute.
Qui écoute, oui.
Ça, c'est important. J'enseigne moi aussi, et je dis souvent à mes étudiants, il faut être poli. Avec notre auditeur.
Oui.
Il faut lui tendre la main, puis l'amener dans notre jardin, puis lui faire visiter quelque chose. Hein, c'est vraiment ça. Et là, c'était le jardin de Louise. Donc, pour moi, comme c'est quand même, il y a beaucoup de notions théoriques aussi, mais il y a des exemples pratiques, je me suis dit, il faut une grande clarté.
Oui.
Beaucoup de clarté, un rythme pas trop rapide, mais en même temps pas trop lent parce qu'on va les endormir. Alors, une espèce de truc mitoyant entre les deux. Et surtout, de toujours m'imaginer, au moment où je narre les choses, quelle est la réaction de l'auditeur?
Oui.
Est-ce qu'il y a les yeux grands comme ça en disant « je comprends rien » ou « wow, c'est formidable » ou ben non, « oui, ça, ça m'intéresse » ou « ça me touche ». Alors, ça a été la première chose. Ça a été mon guide. Donc, à partir de ça, c'est évident que je prends quelques heures. Si je fais une session de 3 heures et que je fais une cinquantaine de pages, c'est sûr que je vais prendre entre 3 et 6 heures pour préparer.
Oui,
pour préparer,
exactement.
Pour que ça soit clair
mais
et
ça
que
s'entend.
Ça soit facile.
Mais oui, mais ça, c'est ça. Vous savez, quand ça a l'air facile, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière.
C'est ça,
c'est de toute façon toujours la même chose. Alors, parlons-en de ceux qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce qu'on leur dit? À quoi vont-ils s'attendre lorsqu'ils vont découvrir ce bouquin par les yeux ou par les oreilles? Parce que il y a pas, elle le disait très bien, Danielle, il y a aussi beaucoup de pratiques.
Oui.
On s'amuse avec les mots. Alors, il y a les... Parlez-moi de tous ces homophones, là.
Les homophones.
Les homophones. Oui,
ben, premièrement, à quoi s'attendre?
Oui.
C'est... Si on parle de communication, ce n'est pas dans la communication de moi à toi.
Non.
C'est la communication de toi à moi. Alors, qu'est-ce que moi j'entends à travers tes paroles quand toi tu t'exprimes? Surtout quand tu exprimes un enjeu ou une difficulté ou quoi que ce soit. Alors, quand on lit le livre ou qu'on l'écoute, on apprend davantage à écouter beaucoup plus profondément, à se taire, à laisser l'autre s'exprimer. Et plus l'autre s'exprime, plus son inconscient veut donner les réponses, parce que c'est en parlant soi-même qu'on s'auto-répond. Hein? Alors déjà, ça améliore énormément l'écoute. Et comme Daniel vient juste de dire tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on s'écoute soi-même. Puis on se dit, pourquoi je suis allée dire ce mot-là? Ça vient d'où? On devient comme encore plus conscient de nos propres paroles et des paroles des autres.
Et on va écouter un petit bout. Là, ça va être le MP3 qui s'appelle Préface, mon ami, parce que, par exemple, là, on va s'amuser avec...
Oui.
Le mot « face », parce que ça fait partie des choses que vous nous apprenez à faire, à comprendre, à savoir à capter à quel point le langage, c'est à la fois d'une grande simplicité et d'une grande complexité, mais que lui, l'inconscient, il capte tout.
Ouais.
Écoutons « Préface ».
Préface. Préface. Mon grand-père paternel, Horace, de son petit nom, s'était installé, il y a belle lurette, dans le petit village de Saint-Boniface avec son épouse, Urtibise. Ma grand-mère, bien grand lui fasse, avait pour habitude de nous secouer les oreilles en nous bécotant la face, ce qui lui valait d'innombrables volte-face de notre part, ses petits-enfants. Après avoir pris sa retraite, mon grand-père gossa une table dans un vieux tronc d'arbre, une table dont la surface était assez grande pour y poser un jeu de Scrabble. Face à face, mes grands-parents prenaient un plaisir immense à jouer avec les mots. Cela leur permettait d'oublier leurs mots.
Et nous voilà en face de l'indiscutable. Hein? Alors ça, c'est le livre est rempli comme ça, hein, de jeux de mots, mais qui n'en sont pas, mais qui en sont quand même. Mm-hmm. C'est d'où le titre d'ailleurs de votre livre, Louise Côté, L'alchimie des mots. J'ai eu l'impression, avez-vous eu cette impression-là aussi, Daniel, en lisant ce livre-là, que... Il faut quand même être un peu initié. Il faut déjà être assez ouvert. Je veux dire, une personne qui n'a pas... Vous êtes d'accord avec moi. Il faut déjà aimer les mots, mais aussi avoir envie d'aller plus loin dans la compréhension de ce qu'ils signifient. Vous avez ressenti ça, Daniel Panton?
Oui, je crois que oui. Plus on a de bagages, évidemment, il faut être éveillé quelque part. Mais moi, je pense qu'en même temps, c'est un livre très accessible.
Voilà.
À cause des exemples très concrets, des exemples amusants aussi, qu'il y a, tu sais, dans les jeux de mots, les lapsus, etc.
Oui.
On se reconnaît là-dedans.
Mais
c'est ça qui est important.
Mm-hmm.
Et puis, il y a des notions plus philosophiques, il y a des choses plus psychanalytiques, etc., mais qui sont toujours, à mon avis, expliquées de façon très simple et très claire.
Oui, parce que, pardon de vous interrompre, mais le commun des mortels... parce que vous êtes thérapeute, vous êtes aidante pour des gens qui sont en difficulté ou pas, d'ailleurs, qu'on simplement... Mais est-ce que le commun des mortels, par exemple, moi, depuis que j'ai lu votre livre, souvent, je me surprends à écouter la personne avec qui je vis, puis je fais comme... OK, est-ce qu'il y a un... non, mais c'est vrai. Puis pourtant, parce que ça va beaucoup plus loin que cette alchimie des mots. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous en parlez beaucoup. Mm-hmm. Les gens intéressés vont s'y retrouver. Tout ce que comprend le mot alchimie, c'est un travail énorme de moines. Moine. Écoutez, juste pour rire un petit peu, un petit extrait d'un bonhomme qui, à mon avis, l'alchimie des mots, il le maniait constamment, c'est Raymond DeVos. Un tout petit bout pour rire.
Oui.
J'avais dit, pendant les vacances, je fais rien. Rien, je veux rien faire. Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances, à quand les vacances, j'ai dit bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé, pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Tu dis pour quand? Il me dit, comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je dis, comment, vous ne savez pas où et quand? Il me dit, si vous ne me le dites pas. Mais je lui dis, je vous ai dit quand.
Mais, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans votre livre, hein, parce que vous aimez l'humour, Louise Côté.
Oui.
Hein? Vous le dites depuis le début, c'est pas possible.
Non, c'est ça. Mais je veux juste vous pointer la différence.
OK, d'accord.
Ce qu'on a entendu, c'est en fait de la langue des oiseaux.
Ah!
C'est la langue des oiseaux, OK?
C'est bizarre, c'est là où j'allais vous amener.
Bon, ben, c'est parfait. Alors, la langue des oiseaux, c'est fantastique, on l'utilise. Bon, c'est pas de l'ornithologie, évidemment,
non.
La langue
alors, des de oiseaux. Quoi on parle? Qu'est-ce que la langue
alors,
des oiseaux?
Alors, la langue des oiseaux, c'est une langue ancienne que les bâtisseurs de cathédrales utilisaient pour se parler entre eux, pour garder leurs secrets. Okay? Alors, ils inventaient des mots comme ça et les gens autour, ils ne pouvaient pas entendre, ils ne pouvaient pas comprendre.
Donc, ils inventaient un vocabulaire.
C'est ça. Okay? Il y avait leur propre vocabulaire, puis au fil des ans, ça a été transformé. L'Église catholique en a parlé comme le langage des anges, bon, des choses comme ça. Okay? Alors, la langue des oiseaux, c'est plutôt, bon, une langue qui fait rire ou une langue qui fait réfléchir. Okay? Ça n'a rien à voir avec l'alchimie des mots comme telle. Parce que l'alchimie des mots, parce que si je peux faire des jeux de mots...
C'est une compréhension.
Ben, en fait, les jeux de mots, c'est fantastique, c'est bon, c'est génial. C'est fantastique, les jeux de mots. Mais ce n'est pas thérapeutique, les jeux de mots.
Non.
Okay? C'est thérapeutique au moment où est-ce que moi, j'ai la capacité d'entendre, c'est une écoute fine, des mots que tu prononces. Et à partir des mots que tu prononces et que moi, je capte en vol d'oiseau...
OK.
C'est là qu'on commence à parler d'autre chose. Et quand je disais tantôt, il y a la langue que je prononce, il y a les mots que je prononce et les mots que j'écoute de toi. C'est ça la différence, pour moi.
Oui. Intéressant. Vous nous dites aussi, ça, vous me l'avez écrit, l'alchimie des mots s'appuie sur cette capacité intuitive, inconsciente, qui sans raisonner rationnellement, c'est saisir au vol et comprendre les messages subtils que la personne accompagnée nous susurre à l'oreille. Mm-hmm. C'est pas forcément susurré d'ailleurs, ça peut être simplement. Non. Mais comment vous demandez ça? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se sent... Est-ce qu'on va pas essayer de fermer la bouche? La gueule à l'inconscient. Non, mais à un moment donné, mais de peur, est-ce qu'on peut, une fois, quand on sent que ça peut être un outil et qu'on n'a peut-être pas envie de se faire comprendre à ce point-là, est-ce que, je ne sais pas si vous me suivez,
oui,
mais pour la personne...
Je pense que c'est plus fort que la personne.
C'est plus fort que la personne.
Plus fort que nous, en fait. Oui, c'est plus fort que nous.
C'est plus fort que nous et c'est plus fort que la police. Eh ben. Non, mais c'est fou.
Hein, pas c'est, lisse.
Hein, comment?
C'est pas lisse.
Non, c'est ça.
Il y a aussi la peau lisse.
Ben oui, la peau lisse. C'est vraiment un livre absolument fascinant. J'avais un autre extrait que j'aurais voulu qu'on entende. Justement, quand on dit que l'alchimie des mots, c'est plus que ça, je voudrais qu'on écoute cet extrait, s'il te plaît, mon ami Mathieu.
L'alchimie des mots peut se déchiffrer sous de multiples angles. En effet, les mots de la langue française se prêtent tour à tour à l'étymologie, à la sémantique, à la prosodie, à l'utilisation des préfixes et des suffixes grecs et latins, à la phonétique, à la signification des lettres et même à leur graphie, ainsi qu'à divers symboles. L'étymologie, dérivée du mot grec étoumos, vrai, se consacre à retracer l'origine et l'évolution des mots. En s'appuyant sur les lois de la phonétique historique et les transformations sémantiques, elle révèle souvent le sens des mots d'aujourd'hui et retrace leur histoire pour nous aider à comprendre leur utilisation à travers le temps. La sémantique, une branche essentielle de la linguistique, étudie les significations, s'intéressant à ce que l'on dit et à ce que l'on souhaite transmettre par l'emploi d'un énoncé quelconque. La syntaxe, qui soutient la sémantique, se concentre sur le signifiant, sa forme, sa langue, sa graphie, sa grammaire, etc. La prosodie, quant à elle, englobe les traits oraux de l'expression verbale d'un locuteur, se traduisant par la musicalité de sa voix et de ses énoncés. Elle clarifie les émotions et les intentions, rendant ainsi le discours plus intelligible pour l'interlocuteur. Parmi les éléments clés de la prosodie, on trouve l'accent, le rythme, le ton, le débit et l'intonation.
Quand je disais que l'alchimie des mots, c'est beaucoup plus que ça. Il y a quand même, vous avez dû étudier énormément, vous avez dû, c'est parce que c'est un moment...
C'est un livre de 3 ans.
C'est un livre de 3 ans. Ouais. Et c'est une vie à partir de maintenant pour soulager les autres.
En fait, ça fait plusieurs années que je le fais.
Oui, c'est ça, exactement. Mais quand je dis à partir de maintenant, je veux dire, dès l'instant qu'il y a eu cette personne qui est arrivée et que vous avez tout d'un coup pensé à terminer, à cette, vous avez, à partir de ce moment-là...
Oui, j'ai commencé ma quête.
Voilà.
Oui, mais je dirais que c'est un livre pour les proches aidants, pour les enseignants avec leurs élèves, pour les psychothérapeutes, pour les thérapeutes, les psychiatres, toute personne qui a à écouter l'autre dans son travail. Ça peut être le naturopathe qui reçoit quelqu'un, le massothérapeute qui reçoit son client, qui lui demande « Comment vas-tu ?» Et là, tout d'un coup, la personne lui répond quelque chose comme « J'ai un couteau dans le dos.
»
Puis j'ai envie de rebondir un petit peu aussi. Moi, comme comédienne, j'ai fait aussi de la mise en scène.
Ouais.
Et c'est un outil extraordinaire. Parce que lorsqu'on dirige les comédiens, il faut leur donner des indications, mais... À la fois, il faut comprendre leur manière de procéder à eux, justement. Qu'est-ce qui leur permet d'avancer? Comment je vais m'exprimer pour qu'ils reçoivent mon indication la plus directement possible et la plus utilement possible?
Ouais.
Alors, pour moi, ça, c'est très, très important.
C'est ça, parce que je me disais, moi, j'allais plus loin que ça, quoi. Je me disais, oui, OK, pour les aidants, mais si nous... les gens qui ne sommes pas dans une position d'aidant, sommes capables aussi de déchiffrer peut-être des gens en face de nous. Je ne sais pas, moi, je pense à un patron par rapport à un employé.
Absolument.
Et je trouve que ça pourrait être élargi. Et vous l'avez très bien dit, Daniel Panton, un metteur en scène par rapport à ses comédiens. Et c'est parce que c'est... Moi, j'ai découvert, en fait, que c'est énorme comme révolution.
Merci, parce que c'est ce que je crois aussi.
Mais c'est... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est cette façon. Mais là, mais... Alors, je me dis, mais est-ce que c'est vrai pour les auteurs? Quand ils écrivent des livres, on pourrait aussi peut-être aller regarder comment c'est écrit pour les auteurs de chansons. Non, mais c'est fou comment on peut aller loin avec cet autre angle de manière d'écouter le langage. Et c'est tout ça, l'alchimie des mots. C'est pour ça que je trouve ça absolument passionnant. Il nous reste 4 minutes. Qu'est-ce que, Louise, côté peut-être, qu'est-ce que vous voudriez, comment vous voudriez convaincre les personnes qui nous écoutent d'aller plus encore que le lire, de l'écouter, parce que je trouve que lu par Daniel Panton, ça prend une dimension vraiment fantastique. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on leur dise?
Ben, en fait, vous pourriez faire les deux. Vous pourriez acheter le livre audio et l'écouter pendant que vous le lisez.
Oui.
Et comme ça, quand vous faites les exercices, vous avez le livre devant vous et vous pouvez comme réécouter la voix de Daniel et, et refaire tout ça. Parce qu'évidemment, il y a comme un processus, hein, on ne devient pas... On appelle ça l'art. L'art, ça veut dire que ça prend quand même un peu de temps pour arriver à la maîtrise. Alors, j'aurais goût de dire, c'est pour tout le monde qui souhaite apprendre comment écouter mieux, s'écouter mieux soi-même, écouter mieux les autres et décoder ses rêves aussi, parfois.
On aurait pu en parler aussi, je l'avais noté, parce que c'est aussi important pour les rêves. Juste un petit mot, vous apparentez ça beaucoup aussi à l'alchimie des mots, à comment interpréter.
Mais écoutez, un exemple super rapide.
Oui.
Allez-y. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé un chemin de fer.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'est-ce que ça veut dire, pourtant je ne veux pas aller en voyage.
Non.
Je lui dis, il y a le chemin de fer, F-A-I-R-E.
Oui.
Alors, est-ce que à quelque part, ton inconscient te dirait « arrête d'être dans le fer
».
Le chemin d'être. Alors, on passe du chemin de fer au chemin de l'être. Ça pourrait être aussi, si on oublie le « ch », ça peut être « main de fer ».
Oui.
Une main de fer dans un garde-velours.
Oui.
Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as entendu que pour toi fait une différence? Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter le chemin de fer. Vous comprenez?
Intéressant. Très, très intéressant. Absolument. Non, mais ça va loin.
Oui, c'est... Et en même temps, je comprends votre question, Clotilde, tout à l'heure. Oui, mais est-ce que ce n'est pas castrant, à un moment donné, où on voudrait s'auto-censurer parce que, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire et tout? Mais je crois que, pour les artistes, entre autres, comme les écrivains, par exemple, qui jouent avec les mots tout le temps, je pense qu'en même temps, il faut accepter que notre inconscient soit exprimé et soit entendu par les autres sans se censurer, parce qu'à un moment donné, on devient fou, là, ça va dans ça. Hein? Et puis aussi, les silences. On parle des mots, mais je pense qu'il y a beaucoup d'écoute dans le silence. Et entre deux mots, quand il y a un silence, il veut dire quelque chose aussi. Et
ça fait partie de l'alchimie des mots, le silence.
Et le sous-texte aussi.
Oui. Oh,
nous, comme comédiens, on en parle beaucoup du sous-texte. Je dis bonjour, comment ça va? Au fond, je veux dire bonjour, je vais te tuer. Hein, par exemple, le sous-texte de bonjour, ça va, c'est celui-là. Donc, je trouve qu'il y a toute cette richesse souterraine qu'on peut remarquer.
Oui. Louise Côté, vous êtes quelqu'un de passionnant, votre livre l'est tout autant. La lecture qu'en fait Daniel, on en a parlé, Daniel Panton, tout ça, c'est magique. Alors, où est-ce qu'on peut vous entendre? Là, il nous reste 45 secondes. Je pense que vous avez une activité, une formation qui arrive prochainement.
Oui, le 29 mars, c'est une formation en ligne qui s'appelle l'alchimie des mots, l'art d'entendre les mots. Alors, je passe à travers les concepts, on fait des exercices ensemble. Préface fait partie de l'exercice aussi. Alors, vous pouvez aller sur le site institutdecoachingholistique.com, chercher pour le programme L'alchimie des mots. Et je vous attends. C'est une formation en ligne.
Louise Côté, Daniel Panton, je vous remercie infiniment. Achetez-vous et lisez en même temps L'alchimie des mots de Louise Côté. Côté. Alors maintenant, on va retrouver Faline Beaubier qui, comme elle le fait chaque fois qu'elle vient, aura deux ou trois livres à nous proposer. Des livres qui, bien sûr, sont en audio et des livres qui sont destinés peut-être à vous pour qui la lecture audio n'est pas un luxe mais une nécessité. Faline Beaubier est du CAEB et elle est déjà au bout du fil. Bonjour Faline.
Bonjour Clotilde.
Ravie. Pardon?
Non, j'ai dit, on va commencer à parler des livres.
Oui, bien sûr qu'on va commencer à parler de livres parce que vous êtes là pour ça et vous aidez beaucoup de personnes, hein, je le disais, pour qui les livres ne sont pas un luxe, mais une nécessité quand on n'a plus les yeux ou quand on n'a plus les mains ou quand on n'a plus... En tout cas, ça s'adresse à énormément de personnes. On va commencer par un sujet qui fâche un peu, mais dont il faut parler.
OK. Alors, c'est le premier livre, donc c'est Deepfake, donc l'intelligence artificielle au service du faux, par Olivier Lascar. Donc, Lascar, c'est un ingénieur, un journaliste et aussi rédacteur en chef du site web et des applis Science et Avenir. C'est un magazine publié en France depuis 2012. Donc, dans ce livre, ce qu'il essaie de... Il veut nous parler de la menace, ce qu'on appelle des deepfakes, et qui étaient vraiment, vraiment approfondis avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des choses comme ChatGPT.
Alors, est-ce qu'il donne des exemples concrets pour nous dire, parce que ça, c'est aussi ce qu'on appelle la culture du faux. Nous, on en est victime, notamment avec les livres audio. Hein. Vous le savez qu'il y a énormément de livres audio, de plus en plus, qui sont lus par des fausses voix. Il en parle?
Oui, c'est ça. Ce que je me rappelle surtout, c'est des gens connus. Donc, il y a une série de vidéos, par exemple, très bien connues, c'est censé être Tom Cruise, mais c'est pas du tout lui.
Non, c'est
mais
ça.
Mais c'est très difficile de savoir en regardant les vidéos. Donc, c'est surtout des vidéos ou des sons qui sont truqués pour essayer de manipuler l'opinion. Mais ça peut entraîner des choses comme cyberattaques, etc.
On se demande, à la lecture de ce livre, mais à la lecture aussi de ce qui se passe en ce moment autour de nous avec l'intelligence, on se demande si on n'a pas basculé, vous êtes d'accord avec moi, dans une ère où on ne peut plus croire ce qu'on voit, où on ne peut plus croire en ce qu'on entend de plus en plus. Et c'est de cela dont il est question dans ce livre-là.
Oui, c'est ça. Et surtout aussi, je dirais, dans une ère de Donald Trump.
Oui, en plus.
Qui parle toujours de fake news. Quand c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que ça devient très difficile pour les gens ordinaires, je pense, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Surtout que là, comme ils ont levé tous les interdits, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il peut utiliser maintenant l'IA sur les plateformes, GAFAM et compagnie. C'est quand même assez dramatique. On a un petit extrait de Deepfake qui nous est présenté par Faline Bobier, texte de Olivier Lascar.
Nous, comme souvent, avons gardé le mot valise Deepfake, venu d'outre-Atlantique. Fake pour faux, deep pour deep learning, ou apprentissage profond, la technique d'intelligence artificielle, IA, qui a permis l'émergence de ce nouvel avatar des fake news. Vous en avez forcément entendu parler dans les infos, à la radio, avez lu un papier sur le web consacré à cette lame de fond. Les deep fakes sont des vidéos, parfois des sons, trafiqués grâce aux technologies numériques. Conçu en mixant des contenus réels mélangés avec d'autres créés artificiellement, voire 100% artificiels, les deepfakes ont vocation à tromper le spectateur, lui faire croire que ce qui est faux est vrai. La fin des temps est proche, psalmodiait Philippulus le prophète dans L'étoile mystérieuse, l'album de Tintin. Voici le temps de l'image falsifiée, lui répond dans un écho le fantôme numérique de Peter Cushing. Car l'effet est saisissant.
Ah oui, c'est fou. On est envahi maintenant par ces images-là. Qu'est-ce que je voyais là, l'autre jour en passant à quelqu'un qui écoutait Facebook, vous savez, des vidéos. Puis il y avait une image d'accident d'avion. Puis la personne était là en disant « Oh mon Dieu, où est-ce que ça s'est passé ?» Mais ça ne s'est pas passé du tout. C'est faké, quoi. En tout cas, écoutez, ça ne présage rien de bon pour nos enfants et nos petits-enfants, chère Faline. Mais ils vont s'organiser avec ça comme nous on s'est organisé avec le reste, dis-je.
Et dans la dernière partie du livre, il se consacre un peu, il parle un peu des moyens techniques pour essayer de contrer.
Il
faut dire que moi, je ne suis pas très...
Très, très spécialiste, oui. Non.
Oui, donc, il dit en même temps que pour lui, la partie est loin d'être gagnée, c'est-à-dire... C'est quelque chose qui est assez difficile à contrer.
Non, mais oui, je pense parce que tout le monde maintenant va avoir à un moment donné, va, même que ça va faire naître des besoins, quoi, et dans les entreprises, partout, quoi. Ce sera,
oui,
bon,
oui,
ça va
il
être
y
une...
a des bons côtés, c'est ouais. vrai.
Bon, c'est alors, on revient au Québec. Alors, oui, pardon, je vais redonner le titre, Deepfake, D-E-E-P-F-A-K-E. On aura compris que c'est un mot anglais, Deepfake, de Olivier Lascar, qui existe donc en version audio accessible. Comme un long accident de char, là, on revient au Québec.
Oui, et il faut dire que moi, je ne connaissais pas cette personne, Joël Martel. Apparemment, mm-hmm. il est très bien connu sur l'Internet aussi, ancien chroniqueur vedette du quotidien de Saguenay, oui. musicien. Donc, c'est son premier roman. Mm-hmm. Et ce qui l'a vraiment poussé à écrire ce roman, c'est le départ de son père, dont il se rappelle dans ce livre, avec d'autres personnes, d'autres proches qu'il a perdus.
OK. Il paraît que c'est un langage beaucoup d'esprit, hein, dans la nature de son écriture.
Oui, oui. Et il faut dire que son père, qui n'est plus avec nous, mais on a l'impression que c'était vraiment un personnage... qu'est-ce qu'on dirait, haut en couleur.
Oui.
Quelqu'un, je pense qu'il s'appelle Gisai. Je suis pas certaine comment on prononce son nom, mais en tout cas, quelqu'un qui n'était pas souvent là pendant son enfance, l'enfance de Martel, mm-hmm. et qui a même passé du temps en prison pour vendre de cocaïne, je crois. Mm-hmm. Mais il dit en même temps que c'est vraiment... son père, dans un sens, la mort de son père qui l'a poussé à écrire ouais. ce roman. Il voulait toujours écrire un roman et il l'a fait après la mort de son père.
OK, alors c'est Patrick Yvon qui en est le narrateur, le comédien ici bien connu au Québec, Patrick Yvon. On va écouter un extrait de « Comme un long accident de char » de Joël Martel.
Il me semble que c'est en entendant ma mère descendre les escaliers à toute vitesse que je me suis réveillé. Au rez-de-chaussée, il y avait ma grand-mère qui faisait des drôles de bruits, un peu comme si elle parlait la bouche pleine de guimauve. Puis, lorsque ma mère a explosé en sanglots, j'ai aussitôt compris que quelque chose clochait. J'ai donc bondi à mon tour dans les escaliers et, quand je suis arrivé en bas, ma mère était là, complètement paniquée, tandis que mon grand-père était désemparé devant ma grand-mère qui avait le visage tout tordu en émettant des sons tristement burlesques. Je vais vous avouer que du haut de mes 10 ans, la scène foutait quand même un peu la trouille. Quelques heures plus tard, toute la famille s'est réunie à l'hôpital et c'était comme à la fin d'un film, vous savez, quand tout le monde a eu une bonne frousse, mais que finalement, tout est bien qui finit bien. Ma grand-mère ressemblait à cette fameuse personne dont le visage a figé pendant qu'elle s'amusait à faire des grimaces. Mais les docteurs nous avaient assuré qu'elle se rétablirait rapidement. Tout le monde est donc reparti à la maison et, alors qu'on s'imaginait que le générique de fin était en train de rouler, c'était en fait le dernier bloc de publicité avant le dévoilement du cliffhanger, cette nouvelle intrigue qui vous rendra impatient de découvrir le prochain épisode.
Patrick Yvon, lisant un extrait de « Comme un long accident de char », un livre, en fait, c'est comment survivre à la mort de son père, comment survivre quand on n'est pas prêt, quoi, tout d'un coup, à voir disparaître une personne comme ça. Très rapidement, oui. mon ami, parce que le temps file, un polar, pour finir.
OK, très bien. C'est « 8 crimes parfaits » par Peter Swanson, écrivain américain qui écrit surtout des romans polars, des mm-hmm, policiers. Mm-hmm. Alors, ce livre, le personnage principal, c'est Malcolm, qui tient une librairie à Boston et qui est enthousiaste de polars, de romans policiers, mais surtout ce qu'on appellerait les polars classiques, oui. comme Agatha Christie, par exemple.
Oui, par exemple.
Alors, un jour, il y a un agent du FBI qui arrive chez lui. Parce que quelques années plus tôt, il a écrit un blog. Donc, dans ce blog, il a fait une liste de 8 crimes parfaits qu'il avait tirés de ses auteurs préférés. Et apparemment, l'agente va lui dire qu'il y a deux événements qui se sont passés qui sont exactement ce qu'il a décrit dans sa liste de crimes.
Ah. On peut imaginer que les crimes vont se poursuivre et que finalement, il a imaginé la réalité un peu plus tard, quoi. On écoute un extrait de 8 crimes parfaits.
Très bien.
À 11h, Margaret Loom, une de nos clientes habituelles, avait poussé la porte de la librairie.
« Pourquoi vous êtes ouvert ? »
demanda-t-elle étonnée. « Pourquoi vous êtes sorti de chez vous ? » répliquai-je sur le même ton. Elle montra 2 sacs d'une épicerie fine de Charles Street et déclara de sa voix patricienne.
« Des provisions !»
Nous avions discuté du dernier roman de Louise Penny, enfin, surtout elle. J'avais fait semblant de l'avoir lu. Je faisais souvent semblant d'avoir lu un roman. Je me contentais en fait de consulter les critiques dans les revues spécialisées et de me rendre sur des blogs. L'un d'eux, Conclusion Canapé, publie des critiques de livres récents dont les lecteurs débattent de la fin. S'il m'arrivait à l'occasion de relire un roman fétiche de mon enfance, les policiers contemporains, en revanche, ne me disaient plus rien, et j'aurais eu bien du mal à me passer de ces blogs littéraires. J'aurais évidemment pu me montrer honnête et dire aux gens que je m'étais tout simplement lassé des romans policiers, que désormais je ne lisais plus pour l'essentiel que des livres d'histoire et de la poésie avant de me coucher. Mais je préférais mentir. Les rares personnes à qui j'avais dit la vérité avaient toutes voulu savoir ce qui m'avait détourné des romans policiers. Et c'est un sujet que je ne pouvais aborder. J'avais renvoyé Margaret Loom chez elle, avec un exemplaire d'occasion de Meurtre indexé de Ruth Rendell, qu'elle était à 90% certaine de n'avoir jamais lu. Puis j'avais mangé le sandwich poulet salade que je m'étais préparé. Je m'apprêtais à fermer pour la journée quand la sonnerie du téléphone avait retenti. « Librairie Old Devils, » dis-je en décrochant.
« Pourrais-je parler à Malcolm Kershaw ?»
demanda une voix de femme. « C'est lui-même. »
Et là, ça va débouler, comme dirait l'autre. Voilà, chère Faline, merci beaucoup. 3 livres proposés, Deepfake, au sujet de l'intelligence artificielle, d'Olivier Lascar. « Comme un long accident de char » de Joël Martel, lu par Patrick Yvon ici au Québec, et « 8 crimes parfaits », le polar que vous nous proposiez aujourd'hui. Faline, merci beaucoup encore une fois pour votre participation. On se retrouve le mois prochain.
Très bien, merci à vous Clotilde.
Mais je vous en prie, allez au revoir.
Au revoir.
Il y a quelques semaines, j'avais été un petit peu frustrée parce que je voulais vous présenter Bristol de Jean Echenoz, lu par Dominique Pinon, et puis on a manqué de temps, alors on vous en a fait écouter un tout petit bout, mais ça ne donnait pas grand-chose, et je vous avais dit, je reviendrai sur le sujet, et bien le voici. Recevoir un Bristol, ça a quelque chose de prestigieux, de grandiose, c'est une invitation qui ne peut être banale. Mais banal, c'est justement ce qu'est Bristol, parce que Bristol, là, c'est un personnage, c'est un homme que rien ne désarme, pas même une femme qui se défenestre quasiment sous ses yeux, comme on va l'entendre. C'est un réalisateur de films qui ne réalise que des navets. Bref, c'est un quelconque. Et le Bristol en question s'apprête à tourner un autre de ces films qu'on ne verra jamais, ou peut-être que par erreur, un dimanche de pluie, vous savez, quand il n'y a rien d'autre, à regarder. Alors, on va écouter, c'est de l'humour à la Echenoz, c'est un humour très, très laconique, un rire jaune. Echenoz, d'ailleurs, j'ai entendu une entrevue de lui dans une émission française et où il disait « Oui, c'est vrai, j'aime bien parler des ratés, j'aime bien parler des gens qui, justement, ne feraient jamais parler d'eux. » Et ce Bristol en est le parfait exemple. Extrait de Bristol.
Bristol vient de sortir de son immeuble quand le corps d'un homme nu, tombé de haut, s'écrase à 8 mètres de lui. Bristol n'y prête pas attention et se dirige vivement vers la Seine. C'est un premier matin d'automne, très tôt pour lui, trop frais pour la saison, 9h10 et 6 degrés Celsius. L'indifférence apparente de Bristol peut s'expliquer par ses pensées qui l'absorbent au point de rétrécir son champ visuel périphérique. Mettons qu'il n'ait rien vu. Rien entendu non plus, le bruit de cet impact n'étant pas plus distinct que celui d'un sac de ciment chu d'un échafaudage, couvert par la rumeur du trafic sur le quai, trop étouffé pour qu'on s'en alerte si l'on est un tant soit peu distrait. Il n'y a personne dans la rue des Eaux, souvent déserte en début de journée, Seuls deux grands oiseaux blancs la survolent qui viennent de remonter le cours du fleuve depuis son embouchure au Havre, sans doute trop fatigués par ce parcours ou trop intéressés par la vue aérienne de Paris pour s'occuper des faits divers. Celui-ci n'est pourtant pas si mal, ce n'est pas tous les jours qu'un homme dévêtu dégringole d'un étage élevé. Ce matin, Robert Bristol s'est nourri des mêmes aliments que la veille, l'avant-veille, toutes les avant-veilles et tous les surlendemains. Aux toilettes, il a lu deux ou trois pages d'un vieil ouvrage de genre intitulé « Par ici les embrouilles », point d'exclamation, dont l'intrigue, déjà confuse, à ce rythme de lecture fragmentée, lui paraît de plus en plus opaque. S'est douché, rasé, toujours dans le même ordre, en commençant par la joue gauche dans le sens du poil, pour finir sous le menton, en sens inverse, après un passage grimaçant derrière les maxillaires où c'est moins accessible et qu'on ne voit pas bien dans le miroir. Et maintenant, prends tes médicaments. Guidé par son humeur, les choses à faire et le temps qu'il fait, Bristol s'est ensuite habillé, costume bleu nuit, manteau gris fer, puis il est sorti de chez lui, préférant l'escalier à l'ascenseur caractériel pour descendre les quatre étages qui séparent son logement de la terre ferme. Au troisième, une porte s'est entrouverte sur le corps de Michelle Severinsen. Corps majestueux d'ancienne actrice contenue dans un peignoir à motif de lilas. Corps président du syndicat de copropriétaires. Regard vert, lèvres pourpres, grande chevelure neigeuse et buste anapurnien, réseau de vénules bleues serpentines au dos des mains. Michelle Severinsen a entrepris Bristol sur ce vieil ascenseur à claire-voie qu'il faudrait remplacer un jour et qui, justement, passe alors très lentement vers les hauteurs. À travers ses grilles se distingue une silhouette d'homme de dos, coiffé d'un chapeau, modèle Fedora à bord large, plume coincée sous le ruban. On ne prend pas garde à la silhouette, on parle, c'est surtout Michelle Severinsen qui parle pendant près de 10 minutes, largement le temps pour cet homme chapeauté d'atteindre le cinquième étage, entrer dans un appartement pour s'y déshabiller, puis s'y défenestrer. Ce sont maintenant l'usure du tapis d'escalier, les nouvelles boîtes aux lettres à prévoir et le caractère abrupt de la gardienne qu'évoque Michelle Severinsen à jet continu. Sous cette averse, Bristol émet des avis brefs, autant qu'inefficaces, comme on essaie d'ouvrir un parapluie rétif, avant de mettre un terme à ce monologue, comme on arrache un sparadrap, d'un seul coup vif, c'est mieux. Il a descendu trois étages et traversé le hall, puis il fait un peu froid dans la rue des Eaux. Il n'a pas fait 100 mètres vers la Seine qu'il entend un cri derrière lui. Reconnaissant le timbre aigu de la gardienne, Bristol ne s'en émeut pas plus que les grands oiseaux blancs qui virent maintenant de bord vers l'étoile. Cet éclat de voix doit être dû à quelque incident domestique, poubelle de travers ou vélo mal rangé. Il faut que ce cri se renouvelle et soit rejoint par d'autres pour que Bristol s'arrête et se retourne. Frissonnant auprès de la gardienne, 4 ou 5 résidents de l'immeuble sont regroupés autour d'un homme au sol.
Ça, c'est tout ce qu'on aime de M. Echnoz. Il ne se passe rien, mais il se passe tout. On est suspendu à la voix et à la narration de Dominique Pinon, extrait de Bristol, donc de Jean Echnoz. Les gestes maintenant de Amanda Sterz, élu par Thierry Blanc, c'est sorti le 15 janvier dernier. Nous sommes avec Marc qui s'apprête à adopter un enfant alors que son père meurt. Et pour offrir à son fils un morceau de son histoire, il va plonger dans la vie qu'on dit hors du commun d'Hippolyte, son père, chauffeur de taxi, exubérant, devenu une sorte d'archéologue fantasque, et il va remonter aux histoires d'amour de ses parents, de ses grands-parents, et lui-même, ce fils, il va procéder à une archéologie de l'intime. Alors on va passer de l'Égypte à Paris, en passant par la Grèce et l'Italie. C'est une vraie fresque familiale qu'a composée Amanda Sterz sur la transmission, sur les origines. C'est peuplé de personnages aux incroyables destins. Donc on ne s'ennuie pas dans les gestes de Amanda Sterz, lu par Thierry Blanc. En voici un extrait.
La main devant son visage.
Papa m'a montré la façon qu'avait sa mère de mettre la main devant elle quand il apparaissait, comme pour s'en protéger, même quand il était tout petit. C'est ainsi qu'il parlait d'elle. Il ne prononçait pas son prénom. Il ne disait pas « Nous allons voir mamie ». Il ne l'appelait pas « Maman » ni « Florentine ». Il disait « C'est, main devant le visage, qui vient te chercher à l'école ». Sa mère était personnifiée par un simple geste. Il avait fallu des années pour que la famille comprenne que cette main qui la masquait quand on se précipitait vers elle était la conséquence d'une pathologie et non d'un dégoût. Avant que sa maladie ne soit diagnostiquée, on croyait Florentine bête, voire folle. Mon père s'amusait à me faire répéter « prosopagnosie », un mot que j'ai écorché jusqu'à l'adolescence. J'ai pu enfin le prononcer quand j'ai compris sa racine en cours de grec ancien. Prosopon signifie le visage, et agnosis souligne l'ignorance. Ce trouble est une forme d'amnésie visuelle qui rend très difficile l'identification des faciès humains, même le sien. Papa me racontait en riant que ma grand-mère s'excusait en se cognant dans les miroirs contre son propre reflet. Quel dommage de ne pas se reconnaître quand elle était si belle. Les jours où elle venait me chercher à l'école, je savais qu'elle ne pouvait me distinguer dans la foule des enfants. Elle m'attendait toujours au même endroit, avec mon goûter dans un sachet de papier froissé par son angoisse. Ses cheveux blancs ramassés en chignon brillaient et lui donnaient des allures de princesse fatiguée. En été, elle ceinturait d'un foulard de soie ses jupes plissées qui tombaient jusqu'à ses chevilles délicates. Dans l'échancrure discrète de son chemisier, elle doublait un long collier de perles avec lequel j'aimais jouer. J'approchais doucement pour ne pas l'effrayer. Je lui disais « Mamie Florentine, c'est moi !» Elle baissait les yeux, me tendait le chausson aux pommes. Alors que je commençais à manger, elle touchait mon nez, mes pommettes, comme une aveugle.
Les gestes d'Amanda Sterz, lus ici par Thierry Blanc. Ça aussi, c'est au chapitre des nouveautés. Une dernière nouveauté, ça c'est sorti à la mi-février de cette année. Ça s'appelle « Sortir de l'ombre », une enquête de Jessica Jones, écrite cette enquête par Lisa Jewell. Écoutez, je ne savais pas au moment de présenter ce livre qu'il était apparenté à Marvel, honnêtement, dont je ne connais pas grand-chose. Moi, je ne me suis jamais vraiment intéressée à cette maison d'édition américaine, surtout de BD, hein, de comics, comme on les appelle. Donc, c'est un style polar qui va être bien apprécié par les amoureux du genre, surtout par les jeunes, je pense, mais peut-être aussi par les adultes qui sont très Marvel dans leur tête. Je ne vous raconte pas les grandes lignes de l'intrigue parce que tout va être clair dans l'extrait que je vais vous proposer. Mais quelques mots sur Jessica Jones, qui a été aussi une série télévisée américaine en 39 épisodes. Imaginez, ça a été diffusé entre les années 2015 et 2019. Et quant à Lisa Jewell, l'autrice, j'en sais peu si ce n'est qu'elle est anglaise, elle n'est pas américaine, elle est anglaise, elle a étudié à Londres et après 5 ans passés à travailler dans la mode, elle a décidé de se consacrer à l'écriture et ses romans ont connu rapidement un vif succès en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Oui, allô Lisa, c'est Marvel, on va faire vos... Imaginez. Oui, un extrait.
Lorsque l'interphone sonne 5 minutes plus tard, Jessica porte encore son t-shirt et ses sous-vêtements sales, n'a pas pris de douche et ne s'est pas brossé les dents. « Ouais, montez !» Elle appuie sur le bouton, puis enfile une veste noire par-dessus son vieux t-shirt, un jean bleu et des bottes. Son haleine sent toujours la graisse de poulet et la bière éventée, mais il est désormais trop tard pour y remédier. Un claquement de talons retentit sur le marbre dans le couloir. Elle se passe la main dans les cheveux et produit une sorte de sourire en ouvrant la porte. Devant elle se tient une femme mince, vêtue d'un long manteau en peau de mouton. Elle a les cheveux couleur caramel et un bronzage qui vient du genre d'endroit où Jessica ne pourrait jamais se permettre d'aller. « Bonjour !» la salue-t-elle avec un mouvement de recul manifeste en découvrant l'apparence de Jessica, avec son haut taché, ses cheveux mouillés, les griffures sur ses bras et son visage, et l'état de la pièce sans dessus-dessous derrière elle. Amber Randall. Elle jette un coup d'œil à la porte où est écrit alias investigation. Vous êtes Jessica Jones ?
Il paraît, acquiesce la concernée.
Oui, entrez, pardon. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, Jessica. Désespérément.
Jessica penche la tête sur le côté et observe la femme assise en face d'elle. Ses os sont si fins que ses mains ressemblent à de petites serres. Ses grosses bottes incongrues lui donnent l'air d'une enfant et sa bouche s'affaisse là où la gravité de sa situation et la vie s'expriment.
Allez-y.
Amber Randall lisse sa robe.
Mon ex-mari, Sébastien, est britannique. Je l'ai rencontré il y a bien longtemps quand j'étudiais la danse classique à Londres. Nous nous sommes mariés et il m'a suivie à New York. Nos jumeaux sont nés ici, il y a 16 ans. Une fille et un garçon, Lark et Fox.
Lark et...
Fox, oui.
Ok.
Après notre divorce, Sébastien est retourné vivre en Angleterre et depuis chaque été, les enfants passent un mois avec lui à Londres. Il a une jolie petite maison à Pimlico.
Pimlico,
un quartier chic de Londres. Et il a récemment fait l'acquisition d'une grande demeure dans l'Essex, à la campagne, précise-t-elle. Chaque été, les jumeaux traversent l'Atlantique pour un mois et passent en général cette période à Londres. Ils voient leurs cousins. Parfois, Sébastien les emmène en France ou au Baléares. Puis ils rentrent à la maison, reprennent les cours et... Bref, cette année, ils ont passé leur séjour dans cette nouvelle maison à la campagne avec leur père. Personne d'autre. Et j'ai l'impression indéfectible qu'il s'est passé quelque chose.
Comment ça ?
Ils sont rentrés il y a un mois, mais en réalité... Je ne sais vraiment pas comment vous l'expliquer. Depuis qu'ils sont de retour, je suis de plus en plus convaincue qu'il ne s'agit pas de mes enfants. Qu'ils ne sont pas mes jumeaux.
Oui, ça doit faire drôle, hein ? Alors, c'est ce que vous raconte cette histoire, qui s'appelle « Sortir de l'ombre », une enquête de Jessica Jones, et c'est écrit par Lisa Joel, et là, c'est lu par Zina K. Koulia. Voilà ce qui vient mettre un terme à cette émission de la semaine de Des livres pleins les oreilles. Je suis contente, il y avait du monde en studio, ça fait du bien de temps en temps. Alors je remercie mes invités, Louise Côté à qui l'on doit l'alchimie des mots, Danielle Panton qui en est sa narratrice et Faline Bobier que nous avons entendu en chronique. De l'autre côté, en régie, c'était l'ami Mathieu Tessier qui était avec vous et ici au micro, Clotilde Sey. Salut.